président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'ai joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans exiger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous donne la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes de retour dans 15 jours après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois Joël Guéraud. Joël, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre que tu as écrit chez Libertalia, Le principe espérance, Ernst Bloch.
Alors, c'est pas tout à fait un livre que j'ai écrit. C'est un livre d'Ernst Bloch, Le principe espérance, et voilà. J'en ai donné une anthologie commentée. Alors, c'est donc ma part d'écriture est relativement limitée dans ce livre. Mais j'ai fait donc un découpage de textes dans un énorme ensemble qui fait plus de 1600 pages en trois volumes, parus aux éditions Gallimard, il y a déjà plus de 20 ans. Mmh. Et cet ouvrage considérable d'Ernst Bloch, eh bien, c'est Nicolas Norito des éditions Libertalia qui m'a demandé en 2020 si je ne pouvais pas en faire une anthologie. Et il me l'a demandé parce que il venait de publier mon livre sur l'utopie, L'homme sans horizon, dans lequel je cite plusieurs fois Ernst Bloch et notamment le principe espérance. Voilà, c'était l'origine donc de ce projet. Alors j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Bon, il y a eu plusieurs raisons, notamment la pandémie, etc. Enfin bon, beaucoup de choses qui ont retardé, mais aussi la difficulté à trouver dans cet ensemble énorme des passages qui puissent être à la fois significatifs et en même temps lisibles pour des lecteurs qui ne sont pas spécialistes de philosophie, et notamment de philosophie allemande, parfois très ardue à comprendre. Très ardue à comprendre, par exemple, bon, on peut penser à des auteurs comme Hegel, ou plus près de nous, comme Husserl ou Heidegger, qui sont particulièrement obscurs. Mais Bloch a une obscurité bien propre à lui, c'est-à-dire qu'il est à la fois quelqu'un qui manie le concept comme Hegel, d'une façon d'ailleurs très brillante, mais en même temps, qui écrit des passages qui ont un côté littéraire et métaphorique. Donc ce passage entre les deux, ces deux plans d'écriture est parfois difficile à saisir pour le lecteur qui peut être dérouté.
Voilà. Alors, enfin présenter Ernst Bloch, 50 ans après sa mort, pour en quoi il est toujours d'actualité et surtout pour un courant, le nôtre, les libertaires.
Voilà. Alors, Ernst Bloch donc est né
on va le retrouver.
Au 19e siècle.
Oui. Hein,
il est donc né en 1885, mm-hmm. et il est mort en 1977. Il a eu donc une très longue vie, 92 ans. Cette vie a été ponctuée par des événements considérables, comme la guerre de 14, la révolution russe, et ensuite la guerre de 39-45. Alors,
et la guerre froide.
Et la guerre froide, bien sûr, après. Alors, Ernst Bloch est l'homme d'un siècle, hein, et il vit presque un siècle, et durant cet espace de temps, il a assisté à énormément de convulsions dans le monde. Alors il est d'une famille juive assimilée, complètement assimilée. Bon, c'est pas des juifs très religieux du tout. Il fait tout de même sa bar mitzvah quand il a 13 ans, et là il choque quand même le rabbin puisqu'il dit ce jour-là: je crois en l'athéisme.
Déjà un rebelle.
Voilà, c'était déjà un rebelle. Et la même année, d'ailleurs, il écrit son premier essai philosophique, figurez-vous, hein, sur l'univers à la lumière de l'athéisme, qui commence par cette phrase: la matière est la mère de tous les êtres. Donc il s'affirme à 13 ans résolument matérialiste, ce qui est quelque chose d'assez intéressant,
oui, hein,
dans cette ambiance malgré tout religieuse, même si ses parents, comme je l'ai dit, n'étaient pas des juifs très pratiquants. Hein. Mmh. Ils sont d'ailleurs, ce n'est pas non plus un fils de bourgeois. Je tiens à le signaler parce que c'est assez rare, hein, parmi les intellectuels de cette époque, et notamment les intellectuels allemands. Son père était un ouvrier qui est devenu, en grimpant petit à petit la hiérarchie interne, fonctionnaire du Land allemand dans lequel il vivait. C'était la Bavière, d'ailleurs. Mm-hmm. Hein? Et donc, puisqu'il vivait à Ludwigshafen, sur le Rhin, en face de Mannheim, Ludwigshafen, à l'époque, faisait partie du royaume de Bavière. Voilà. Donc, pour revenir à la biographie de Bloch, je vais aller assez vite. D'ailleurs, dans le livre, j'ai établi une chronologie.
Oui, on va revenir sur les années les plus importantes, voilà, si tu permets, Joël. Alors, 14-18, en 1917, Qu'est-ce qu'il fait ?
Alors, pendant la guerre de 14, c'est là qu'il commence à écrire, au moment de cette guerre de 14, son premier livre important, L'esprit de l'utopie. Mm-hmm. Il n'est pas du tout, à l'époque, marxiste. Il est influencé par notamment des idées comme celle de Gustav Landauer, anarchiste libertaire allemand. Hein, il est influencé aussi par la mystique juive, certains courants de la mystique juive, une mystique évidemment dégagée de la théologie, au sens où, qu'on l'a vu, il est matérialiste, mais c'est l'idée de messianisme qui l'intéresse, comme chez Benjamin, Walter Benjamin, à la même époque d'ailleurs.
Oui, qu'il rencontrera en 1921.
Oui.
Il le rencontre en 1921.
Oui, oui, il se rencontre, bien sûr. Alors, donc, il écrit commence à écrire L'esprit de l'utopie, et là, en 1917, au moment où il risque d'être enrôlé dans les armées du Kaiser, il est totalement hostile à l'agression allemande. Hein. Il est plutôt francophile. Il trouve que l'Allemagne est un État bureaucratique qui est qui opprime les masses allemandes, mais qui aussi a une visée coloniale sur et impérialiste sur le reste de l'Europe. Et il est totalement hostile à l'Allemagne, et il se réfugie en Suisse pour échapper à la conscription en 1917. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que, peu de temps après, éclate la révolution russe.
Tout à fait. De toute façon. Voilà. Alors, j'ai repéré aussi une autre année très importante, 1921. Donc, ses liens d'amitié avec Kurt Weill, Walter Brecht, Otto Klemperer,
oui,
et Théodore Adorno et Walter Benjamin.
Voilà.
C'est une année très importante.
Oui,
et
oui.
Surtout la mort de sa première épouse.
Oui, et la mort de sa première épouse, Else von Stritzky, qui était avec qui il écrivait, puisque elle a elle-même participé à l'écriture de la première version de l'esprit de l'utopie. Alors, il rencontre tous ces gens-là. Il avait rencontré auparavant Georg Lukács, et ils avaient développé un lien d'amitié extrêmement fort entre eux. Et Lukács et Bloch écrivaient même ensemble des textes qu'ils appelaient de la sympathie, comme la sympathie, philosophie. Et ils disaient qu'ils ne savaient plus exactement qui avait écrit quoi, tellement ils étaient en symbiose.
D'accord.
Alors, il écrit en 1921, c'est une année très importante pour lui. Aussi, c'est l'année où il commence, suite à la révolution russe, très vite, vers 1918, 1921, il se convertit, si on peut dire, au marxisme. Voilà.
Alors, 1935, publication à Zurich de l'héritage de ce temps.
Oui.
Alors,
c'est un livre très intéressant.
Voilà, et Thomas Mann et Hermann Hesse font des éloges de ce livre.
De ce livre, oui, bien sûr. Thomas Mann et Hermann Hesse font des éloges de ce livre. En revanche, à Moscou, le livre n'est pas apprécié.
Ah, il est même c'est refroidissant.
Il n'est pas apprécié parce que les Bloch adressent certaines critiques à la gauche allemande, et ça ne plaît pas trop à Moscou. Voilà.
Tu m'étonnes. Alors, 1939, il arrive à New York.
Oui, parce que, évidemment, que se passe-t-il en 1933 ? Il doit fuir l'Allemagne. Il se réfugie d'abord à Prague, mais en 1938, il est rattrapé par les troupes nazies, parce que la Tchécoslovaquie, on le sait bien, suite aux accords de Munich, elle est envahie par l'Allemagne nazie. Donc il fuit, et il se retrouve à New York, et là d'ailleurs il va retrouver d'autres exilés allemands, dont Adorno.
Et c'est là où il commence à écrire le principe Espérance.
Alors il commence à écrire le principe Espérance dès 1939, à New York. Il va écrire d'ailleurs l'essentiel du livre pendant ses années de séjour en Amérique. Et il reviendra avec le livre dans ses bagages, qu'il poursuivra, dont il va
affiner le propos.
Affiner le propos, oui, bien sûr. Et d'autres ouvrages, hein, il écrit beaucoup. Bloch, les œuvres complètes de Bloch, c'est vraiment considérable. C'est quelqu'un qui a écrit énormément. Et en France, on a quand même pas mal de traductions, mais on n'a pas tout encore.
Voilà. En 1944, il crée une maison d'édition Aurora, à New York.
Oui, oui.
Il avait compris qu'il fallait avoir une maison d'édition pour pouvoir éditer, justement.
Oui,
ça,
bien
sûr. C'est intéressant.
Oui, il crée Aurora avec Bertolt Brecht, Dublin et Mann.
Voilà.
Oui. Alors, il écrit Aurora, il publie d'ailleurs dans cette maison d'édition un chapitre du Principe Espérance.
Voilà. Alors, on a 1954 et 1955 qui sont des années très importantes pour Ernst Bloch. C'est la parution du volume 1 du Principe d'Espérance aux éditions Aufbau.
Oui.
Je ne suis pas germaniste.
Oui, alors, il. En 44, donc, il est encore aux États-Unis. Il va rentrer en Europe, donc après la fin de la guerre. Et là, il va, s'est constituée la République démocratique allemande, la RDA, sous obédience soviétique. Et la RDA, évidemment, ayant besoin de rapatrier des cerveaux, fait une politique d'ouverture qui semble libérale. Évidemment. Alors, Bloch, qui a cette espèce d'optimisme chevillé au corps, qui est intéressant, mais qui peut lui faire faire des erreurs, eh bien, il y croit. Donc, il rentre en RDA de New York, et il rentre en RDA, et là, on lui offre un poste à l'université de Leipzig. Il a une chaire et il est tout à fait, il est très bien reçu. On le laisse travailler pendant quelques années et d'autres intellectuels allemands sont rentrés aussi. Brecht est rentré par exemple. On le laisse travailler. Bon, comme c'est un homme qui travaille beaucoup, c'est un homme de cabinet, c'est quelqu'un qui... Voilà. Il n'inquiète pas les autorités. Il publie un premier volume du Principe Espérance.
Voilà.
Et on lui donne, on le fait entrer à l'Académie de RDA. Bon, il est couvert d'honneur, en fait.
Voilà.
Après, paraît un deuxième volume.
En 1955, le volume 2.
Voilà, le volume 2. Petite anecdote, le chef, le leader de la RDA, le secrétaire général du Parti communiste, Walter Ulbricht, recevant Bloch un jour, lui dit « Oh, c'est très bien ce que vous écrivez, mais j'ai jamais rien compris à ce que vous écrivez. »
Il n'avait rien compris à beaucoup de choses aussi.
Donc on pouvait très bien publier ce genre de livre. C'était pas dangereux puisque apparemment
les gens ne comprenaient pas. Ça leur passait au-dessus.
Pas. Voilà.
Alors j'ai repéré l'année 1961.
Alors, avant 1961, il se passe une chose, il se passe les événements de 1956.
Voilà.
C'est-à-dire le rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline, qui finalement arrive, malgré tout, à circuler en Europe de l'Est. Des événements en Pologne, des événements qui font tomber d'ailleurs le gouvernement polonais et font venir un autre bureaucrate à la place qui semble plus libéral, hein, Gomulka. Mm-hmm. Et ensuite, la grande révolution hongroise de Budapest.
Tout à fait.
Et Bloch ne cache pas sa sympathie pour le mouvement de Budapest. Il espère bien que ça va se répandre aussi en RDA. Et là, ça se passe pas bien pour lui. Son assistant, d'ailleurs, un certain Manfred Bourg, le dénonce aux autorités, le dénonce comme un déviationniste dangereux. Mmh. Et donc, il est mis à la retraite en 57. Il est fait professeur émérite, donc interdit d'enseignement.
Ouais.
Et Walter Ulbricht, là, écrit dans Neues Deutschland, le journal officiel du parti, un article déclarant qu'Ernst Bloch est un idéaliste et une sorte de corrupteur de la jeunesse. En fait,
bon.
Quelqu'un donc qui doit être mis sur la touche. Il faut noter que Bloch n'avait jamais pris sa carte du parti communiste.
Mmh, tout à fait.
Il est resté indépendant.
Mmh. Voilà. Voilà. 1961, il est en voyage avec sa femme en Bavière et il apprend la construction du mur de Berlin.
Alors, il n'est pas envoyé en Bavière, il part en vacances en Bavière parce que il est possible, à l'époque, il n'y a pas encore de ligne de mur, hein, on peut sortir librement du pays. Donc, il part en vacances, en fait, au mois d'août. Et c'est au mois d'août qu'est construit le mur de Berlin, et que là, tout se verrouille. Et donc, là, il décide de ne pas rentrer. Mmh. Et il préfère rester à l'ouest, et il ne rentrera plus en RDA.
Alors, on a réussi à récupérer clandestinement ses manuscrits,
oui, oui,
et
oui.
Par contre, tout le reste est resté sur place.
Ah oui, oui, il a perdu toutes ses affaires. Mmh. Ah, mais il a pu récupérer grâce à un ami qui était de l'autre côté. Il a pu récupérer ses manuscrits.
Alors, 1968, qu'est-ce qui se passe pour lui ?
Alors, lorsqu'il est en RFA, maintenant en République fédérale allemande, il ne devient pas pour autant un suppôt du capitalisme occidental. Et ça, c'est quand même, il faut toujours le dire, il reste extrêmement critique vis-à-vis de l'Occident. Il s'oppose aux lois d'exception qui sont instituées en RFA. Et il participe à des... il soutient les mouvements étudiants, hein, qui se développe en 68, mmh, en RFA comme en France.
Voilà.
Et notamment, il devient assez proche de Rudi Dutschke, mmh, qui est le leader étudiant de l'époque, qui va d'ailleurs avoir un sort très triste, puisqu'il il va être il va succomber à un attentat terroriste, en fait.
Hein,
on va lui tirer dessus et il mourra quelques années plus tard.
Voilà. Et surtout, en 68, une partie du mouvement étudiant allemand se revendique de tous ses écrits.
Oui.
À Hans Bloch.
Oh, oui, oui.
C'est la consécration.
Oui, oui, oui. Une partie des étudiants se revendique de ses écrits à ce moment-là.
Oh, alors, 1970, une relation d'amitié se développe entre Bloch et Rudi Dutschke, voilà.
Oui.
Et surtout, 1977, c'est la fin.
Là, oui, alors il meurt en 1970.
Alors, Joël, 1970, c'est la rencontre, c'est la consécration, c'est la rencontre, oui, entre Rudi Dutschke
et Ernst Bloch.
Voilà.
Oui, oui.
Donc,
Développe une relation amicale qui sera interrompue par la mort de Rudi Dutschke.
Dans un attentat.
Oui. Qui succombera des suites d'un attentat qui a été commis contre lui.
Voilà. Et en 1977, malheureusement, le 4 août, nuit de l'abolition des privilèges, comme tu le dis si bien.
Oui, bah c'est la mort d'Ernst Bloch à 92 ans. Il faut quand même souligner qu'il publie son dernier livre théorique, Experimentum Mundi, l'année d'avant. Hein. Mmh. Et donc, ce dernier livre, il l'a écrit en se faisant aider par un assistant, parce qu'il était aveugle. Mmh. Et donc, il a dicté ce livre, et qui est un livre d'un niveau théorique très solide, très élevé. Donc, jusqu'à 90 ans, il était en pleine possession de ses moyens intellectuels.
Bon. Oui. Joël, nous allons faire une pause, et nous allons revenir en deuxième partie sur deux aspects précis de ton ontologie.
D'accord.
Merci.
Thank you.
Chers éditeurs de La Rage dedans, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission avec Joël Guéraud pour son anthologie sur le principe espérance d'Ernst Bloch, publiée chez Libertalia. Alors Joël, on a décidé de présenter deux extraits de ton anthologie. On commence par le premier, Intérêt et excédent utopique.
Excédent utopique, oui. Alors, voilà. C'est vrai que nous venons de parler de Bloch, mais Bloch est... Et on n'a pas parlé encore d'utopie, parce que Bloch, c'est quand même le grand philosophe de l'utopie au XXe siècle. C'est lui qui réhabilite cette notion d'utopie qui avait été décriée parmi les marxistes, puisqu'on connaît, par exemple, le petit essai d'Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, où il oppose aux utopistes du XIXe siècle, comme Saint-Simon, Fourier, Robert Owen, et la science qu'aurait découverte Marx, et basée notamment sur l'étude de l'économie. Alors, opposition entre socialisme utopique, socialisme scientifique a été maintenue figée par les tenants du marxisme vulgaire. Et Bloch, lui, avant d'être marxiste, était déjà fasciné par la notion d'utopie et il écrit, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, de 1914 à 1918, il écrit un essai fondamental qui s'appelle « L'esprit de l'utopie », qui ne doit rien au marxisme dans cette première version de 1918. Mais lorsqu'il se convertit au marxisme, puisqu'il s'agit d'une sorte de conversion presque religieuse, hélas, il écrit une deuxième version de l'esprit de l'utopie où il retranche certaines choses et il ajoute un passage sur Marx à la fin, une deuxième version qui paraîtra en 1923. Et là, il fait quelque chose justement de très hétérodoxe, c'est-à-dire qu'il fait de Marx aussi une sorte d'utopiste. Hein, c'est-à-dire que pour Bloch, il y a dans la réalité objective, y compris la réalité matérielle, une pulsion utopique, une tendance utopique immanente qui pousse vers le dépassement, vers l'avant. Et il en parle dans le principe espérance, bien sûr, mais aussi dans d'autres œuvres, dans d'autres ouvrages. Donc cette pulsion utopique, elle se trouve partout, dans la nature, mais aussi, dans la conscience humaine. C'est-à-dire, c'est cette tendance immanence à l'être, d'aller au-delà de lui-même et pour l'homme, pour l'humanité, de créer un monde meilleur. Voilà. Donc, alors, je vais revenir sur la notion d'excédent utopique dont tu parlais. Alors, mais j'ai préféré faire cette petite mise au point pour qu'on voit dans quel cadre se situe Bloch. Alors, on connaît, cette notion d'excédent utopique, c'est pour répondre à une interrogation que Marx lui-même s'était posée. On sait que dans la pensée de Marx, c'est l'existence qui détermine la conscience. Et donc, quand on est dans une situation donnée, eh bien, la conscience, la pensée, dépend des conditions objectives, notamment économiques et sociales. Mais Marx s'est posé tout de suite la question, notamment on la trouve dans l'introduction à la critique de l'économie politique de 1857, qui est un texte qui est resté inédit très longtemps. Et comment se fait-il que nous qui vivons au XIXe siècle, à l'époque de Marx, nous soyons toujours émus et bouleversé par des œuvres qui ont été écrites dans l'Antiquité. Par exemple, Homère, à une époque très différente de la nôtre, une époque féodale. Pourquoi on est toujours, on trouve toujours un intérêt à Shakespeare, etc. Alors, Marx ne donne pas de réponse. Il y a une réponse qui est donnée par des marxistes. On pourrait dire qu'il y a un développement inégal de l'économie et de la pensée, etc. Et Bloch, lui, invente cette notion d'excédent utopique en disant que, ou d'excédent, il y a l'excédent utopique, excédent culturel, il emploie les deux termes, que dans certaines œuvres ou situations, il y a dans ses œuvres un excédent qui annonce une société à venir, un monde à venir, un monde meilleur. Il y a une force qui dépasse le temps présent. Et donc, cette notion d'excédent utopique, il l'amène loin, puisqu'il dit ces œuvres-là, elles échappent à l'idéologie. C'est-à-dire que dans ces œuvres, il y a bien sûr des éléments idéologiques qui datent de l'époque dans laquelle elles ont été conçues, mais elles vont au-delà. Et nous, qui ne sommes pas les contemporains d'Homère, on peut trouver dans Homère des interprétations qui peuvent nous intéresser. Voilà cette notion d'excédent utopique, il la trouve dans toutes les productions importantes de l'art, notamment.
Wow. Voilà. Eh ben, merci Joël. J'avais lu ce chapitre, mais je n'avais pas tout compris à ce point-là. C'est génial. À Homère, je reprendrai. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un deuxième extrait de la lutte du prolétariat à celle de l'humanité tout entière.
Oui, alors c'est effectivement, c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez Marx dans le manifeste communiste. Marx dit très, très clairement, et là, en cela, il y a chez Marx un côté anarchiste, malgré tout, malgré son opposition à Bakounine. Et il dit le prolétariat, lorsqu'il aura renversé le règne de la bourgeoisie, il doit abolir toutes les classes. Définitivement, il n'y aura plus de classe. C'est pas lui qui deviendra une classe dominante. Il ne doit pas. Et donc, c'est l'humanité tout entière qui doit être libérée. Et Bloch reprend ça, évidemment. Il le reprend d'autant plus vigoureusement, notamment à la fin du Principe Espérance, en parlant d'une démocratie véritable, qu'il était dans un pays stalinien qui se réclamait de Marx.
Il savait de quoi il parlait.
Et oui. Et il pouvait justement s'appuyer sur les textes de Marx pour les opposer aux dirigeants de l'époque, oui, et au régime sous lequel il vivait. Donc, il ne s'en privait pas. On sent d'ailleurs dans tout le Principe Espérance, on ne le sent pas trop dans mon anthologie, mais qu'il donne parfois des concessions au régime, et quelques pages plus loin, eh bien, on a l'impression, en fait, que
c'était pas une concession.
Voilà. Oui,
c'est pour amadouer, pour mieux leur rentrer dans l'art.
Voilà. Oui.
Si je puis me permettre.
Sûr. Non, c'est évident que il y a une sorte de double entente dans certains passages.
D'accord. Donc la conclusion de cet extrait, c'est un monde sans domination ni hiérarchie. Sera possible.
Ah oui, alors.
Il l'a toujours cru et c'est ça le principe d'espérance.
Ah oui, il l'a toujours cru. Et d'ailleurs, il y a une réflexion d'Adorno à propos de Bloch. Adorno dit de lui qu'il. Il a toujours, Bloch a, n'a jamais douté de la possibilité d'un, de l'existence d'un monde sans obligation ni hiérarchie, et qu'il a même... alors que Adorno était beaucoup plus pessimiste après la guerre. Adorno est un penseur très important de cette tradition aussi marxiste complètement hétérodoxe, puisque il est pas du tout. Alors lui n'a jamais été comme Bloch impliqué dans aucun régime stalinien, mais il est beaucoup plus pessimiste et il n'envisage pas comme Bloch qu'il puisse y avoir une sortie utopique, une heureuse des conditions présentes. Et voilà, il souligne ça chez Bloch.
Oui, alors, c'est... 50 ans après la mort de Bloch, en quoi les libertaires et tout le monde peut s'inspirer du principe espérance et de sa pensée en général que tu as développée dans ton ontologie ?
Alors, je pense que... D'abord, je rappelle que quand Bloch a écrit L'Esprit de l'Utopie, on était en pleine guerre de 14, c'est-à-dire le premier conflit mondial épouvantable, qui a tellement sidéré les gens à l'époque qu'après, à la fin de la guerre de 14, on a voulu penser que c'était la dernière guerre, la der des ders, et ça ne l'a pas été.
Loin s'en faut
aujourd'hui. Eh bien, on est un peu, je trouve, dans cette situation. Aujourd'hui, de nouveau, les conflits ensanglantent la planète, on a le fameux réchauffement climatique qui en ajoute une couche dans les menaces. Et donc, notre monde, c'est un peu ce que c'était le propos de L'Homme sans horizon, mon livre sur l'utopie, le monde semble clos, fermé, sans échapper possible. On a l'impression, le capitalisme veut faire croire qu'il est la dernière
option,
qu'il n'y a pas d'alternative. C'était le fameux TINA
de Margaret Thatcher.
Et donc, cet enfermement rend plus que jamais nécessaire le renouveau d'un esprit d'émancipation, d'un esprit utopique, mais d'un esprit d'émancipation générale sur tous les plans. S'émanciper et en finir avec l'exploitation, la domination et l'aliénation dans tous les domaines de la vie. Donc c'est pour cela que j'estime absolument indispensable de se dire que tout n'est pas joué, que l'humanité est encore vivante, que nous ne sommes pas remplacés par les robots et l'imbécilité assistée, l'intelligence artificielle. Et que donc nous avons encore
une carte à jouer
et à jouer là de façon extrêmement lucide, ferme, et que cette espérance instruite, cette docta spes, comme la nommait Ernst Bloch, doit revenir au premier plan de nos préoccupations. Et je pense que la lecture de ce petit livre permettra de donner quelques pistes de réflexion et quelques armes critiques à ses lecteurs. Et je visais notamment des jeunes gens qui n'ont pas nécessairement une formation philosophique. C'est pour ça que j'ai choisi des passages significatifs dans ce livre, pas trop compliqués, mais qui représentent bien la pensée d'Ernst Bloch et qui peuvent être repris peut-être dans la critique.
Voilà. D'accord. Alors, Joël, moi qui te connais bien, je sais que tu as une démarche, tu fais partie du groupe des surréalistes de Paris.
Oui.
En quoi ta démarche de surréaliste rejoint celle de M. Bloch ?
Alors, les surréalistes ont, depuis longtemps, sont très intéressés par l'œuvre de Bloch.
Oui.
Justement, parce que c'est une œuvre qui met l'accent sur les ressources de l'imaginaire.
Mmh.
Puisque pour arriver à se forger l'idée d'un monde meilleur, il faut en avoir l'image dans la tête. Alors c'est pas une image préconçue, c'est pas une icarie toute faite qui convient, mais simplement avoir imaginer que un autre monde est possible, c'est essentiel. Et l'accent mis sur les pouvoirs de l'imaginaire par les surréalistes les rapproche tout à fait de la pensée de Bloch, bien sûr. Et Bloch insiste beaucoup au début du principe Espérance sur l'importance du rêve, de la rêverie diurne. Hein. Il s'intéresse moins aux rêves nocturnes que les surréalistes, mais il s'intéresse à la rêverie diurne et il sait que c'est dans la rêverie qu'on élabore des utopies et des moyens
d'espérer.
De dépasser et d'espérer. Voilà.
Merci Joël.
À propos de Bloch, je pourrais terminer sur sa tombe. Il y a écrit « Penser, c'est outrepasser ».
Ce sera le mot de la fin. Alors, je rappelle le titre de ton livre, de ton anthologie. Le principe Espérance, extrait choisi, annoté et présenté par Joël Guéraud, Ernst Bloch, chez Libertalia. Et c'est un prix modique, vraiment c'est une cible pour les personnes qui ont un porte-monnaie modeste, c'est 10 euros.
Voilà.
Vraiment, et c'est une bonne cible, parce qu'à Publico, notre librairie chérie, on le vend comme des petits pains.
Ah, c'est très bien.
Voilà, d'ailleurs j'ai récupéré le dernier exemplaire pour pouvoir préparer l'émission.
J'en suis ravie.
Voilà, merci à Frédéric, sans qui il n'y aurait pas d'émission. Donc, je vous dis à bientôt. Dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous par les temps qui courent. On n'est jamais trop prudent. Merci beaucoup. Au revoir.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs, l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs, la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves.
Merci à l'équipe de La Rage Dedans et rendez-vous au prochain numéro. Dans 6 minutes exactement, vous avez rendez-vous sur Radio Libertaire avec Radio Espéranto, votre émission en espéranto et en français avec Marc, Guy et Hubert.